Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que tu vas bien. Non, ce n'est pas un mirage, c'est bien moi. Désolée pour l'attente, pour le long moment sans podcast. Et justement, je voulais en parler avant de commencer dans le vif du sujet, enfin le sujet même du podcast, enfin de l'épisode. De base, j'avais plusieurs sujets, plusieurs épisodes que je voulais traiter et j'en ai enregistré un, pré-enregistré un. Je dois les monter ou les modifier, mais ce sujet-là est arrivé et je me suis dit il faut que j'enregistre celui-là et que je monte celui-là. Et en fait, la discipline et l'organisation, c'est pas du tout mon truc. Et le truc, c'est que j'ai créé cette chaîne de podcast par envie, par grande motivation. En fait, je me suis fait la promesse à moi-même de ne faire que ce qui me faisait plaisir et qui était en accord avec moi-même. Et du coup, quand je le sens pas ou que j'ai pas la motivation pour monter un certain épisode ou que ça me plaît pas ou que j'ai envie de recommencer ou un truc comme ça, bah je me force pas et je fais en fonction de mes envies, du coup voilà. Et aussi en fonction de mon emploi du temps, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai été absente aussi longtemps, parce que j'ai eu pas mal de trucs qui sont arrivés, pas grave hein, t'inquiète pas, mais dont les vacances en fait, parce que j'en avais besoin. Et c'est une année de concours pour moi cette année, donc ça va être assez parsemé au niveau des épisodes, mais j'espère quand même qualitatif. Bismillah. Enfin bref, pour passer sur le vrai sujet, moi, de toute façon, quand j'enregistre un podcast, enfin un épisode de podcast, c'est souvent qu'il s'est passé un truc dans la journée ou dans la semaine ou dans la période, quoi, qui fait que je me suis dit, il faut que j'enregistre ce podcast-là maintenant à propos de ce sujet-là, et j'enregistre en fonction aussi de mon inspiration. Donc forcément, c'est pas très régulier. Mais je cherche pas à ce que ça le soit. Comme ça me ressemble au moins. Bref, passons sur le sujet qui est celui à propos de la mort. Alors tu me diras, c'est pas très glamour, c'est pas très joyeux, c'est pas fou comme sujet. Et en fait justement, si tu es en train de te dire ça, cet épisode est fait pour toi parce que mon objectif pendant cet épisode-là, enfin du moins à la fin de cet épisode, c'est de changer ton point de vue sur la mort, de changer l'image, la vision que tu en as, les a priori peut-être que tu as dessus, essayer d'avoir une vision en fait positive à propos de ça. Et je pense que ce changement de perspective est nécessaire pour plusieurs raisons. Parmi elles, le fait que c'est un passage obligé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Kullu nafsin dha'iqatul maut ». Il nous le dit dans plusieurs sourates, dans plusieurs chapitres. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on a un doute. On va tous passer par cette étape-là. Et en fait, moi, ma vision à moi aussi a changé sur la mort. Je le voyais comme quelque chose de glauque, comme quelque chose de triste, comme quelque chose de forcément en fait mauvais, négatif. Et à force de soit l'expérimenter par des proches, soit d'en entendre parler, soit m'y intéresser de près ou de loin, mais en fait je me suis forcée à changer ma perspective là-dessus, et du coup je la vois complètement autrement. Et mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment que tu partages cette vision des choses avec moi, ou que tu en aies une autre, mais qui soit un peu plus positive. Une des étapes qui a participé du coup à mon changement d'opinion, de perspective, ça a été la mort de mon père Narahmo. Je t'en avais parlé dans un des épisodes et j'ai décidé de consacrer une partie de cet épisode-là du coup à vraiment raconter plus ou moins en détail ce qui s'est passé. Et du coup, te partager en fait ma vision à propos de cet événement-là. Donc ça s'est passé il y a 14 ans. Donc j'avais 10 ans et effectivement, j'étais très jeune. Mon frère était encore plus jeune, il avait 6 ans. Et en fait, bah, c'est un événement qui a forcément chamboulé nos vies. Quand je dis nos vies, j'inclus principalement du coup celle de ma mère, mon frère et moi. C'est un moment clé de ma vie, qui fait partie de ma vie et qui m'a aidé à me construire et qui m'aide encore aujourd'hui à me construire et je l'espère en bien. En gros, mon père, l'arhmo, était malade. On lui a découvert un cancer du pancréas. Pour les personnes qui sont plus ou moins dans le milieu médical ou qui en ont déjà entendu parler de ce cancer-là, savent que c'est un cancer qui te donne pas beaucoup de chances de survie, médicalement parlant et scientifiquement parlant. Évidemment, la vie et la mort est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans les statistiques médicales, etc., tu sais que c'est un cancer qui est très agressif, qui est souvent découvert quand c'est à un stade avancé. Les signes, les symptômes, etc., n'apparaissent que quand c'est un signe avancé, un stade pardon, avancé. Et du coup, à sa découverte, le pronostic était déjà assez mauvais, mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Donc, entre le moment où ça a été fait, le diagnostic, où il a été découvert, et le moment de son décès, l'arhamo, il s'est passé 8 mois. Je ne sais pas exactement à quel moment je m'en suis rendu compte, mais à l'heure d'aujourd'hui, je le dis, et ça fait quelque temps que je le dis, ça a été les 8 plus beaux mois que j'ai pu passer avec lui. Et ça a été parmi les mois les plus beaux en fait de ma vie, concrètement. Ça peut paraître paradoxal, mais je vais t'expliquer du coup pourquoi. Parce que quand on a la maladie de quelqu'un, ou la mort de quelqu'un, ou les deux plus ou moins intriqués, ça nous rappelle à quel point justement cette vie d'ici-bas, elle est éphémère. À quel point, en fait, on perd notre temps sur des choses futiles, ou on perd notre temps à ne pas profiter justement avec nos proches, à ne pas profiter d'eux. Et du coup, ce sentiment un peu d'instabilité, de danger, ça te fait t'accrocher au moindre détail, aux moindres petites choses et essayer d'en prendre tout le positif et de rejeter tout le négatif. Évidemment, c'est pas aussi binaire que ça, c'est pas aussi simple que ça, mais globalement, c'est ce que ça te pousse à faire. Donc, quand tu sais qu'une personne est malade, est gravement malade, du coup, cancer, tu t'accroches à tout dans cette période-là. Tu t'accroches au moindre souvenir et tu essayes de le graver dans ta mémoire le plus profondément possible. Et tu en profites clairement pleinement, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et je pense que dans le comportement aussi de mon père, l'arhamou, il y a eu un changement à ce moment-là. Parce que tu te dis, tu associes souvent en fait cancer à la mort. Et donc tu te dis, c'est pour bientôt. Donc il faut que je profite de ce que j'ai. Il faut que je profite des chances que j'ai financièrement. Il faut que je profite de la santé que j'ai pour l'instant. Il faut que je profite de mes enfants, de ma femme, de ma famille, du fait de voyager, du fait de me repentir, de prier, de faire tout ce que tu pensais avoir le temps largement de faire. Alors qu'en réalité, on n'a pas cette certitude-là, on ne peut pas s'appuyer dessus. Donc, on en a tous en fait profité, on a tous profité les uns des autres. Et tu te crées des souvenirs et tu les graves vraiment super profondément. Et en fait, tu te rapproches. On se rapproche les uns des autres. Et je pense que j'ai jamais été aussi proche de mon père l'arhamou, ou du moins je me suis jamais sentie concrètement aussi proche de lui qu'à ce moment-là. Et à sa mort, l'arhamou, donc c'était... Il me semble qu'il y avait eu des métastases, que ça s'était pas mal compliqué. Et en fait, il est décédé narahmou, dans la nuit où ça allait être la rentrée scolaire. Je me rappelle, c'était le 2 septembre 2009. Donc ça allait être, ouais, je disais, la rentrée, en fait, le lendemain. Et moi, j'étais super, super inquiète à ce moment-là pour une certaine raison, dont je ne parlerai pas ici. Mais j'étais super inquiète pour lui parce qu'il allait aller en chimio. Il était convoqué, je crois, à l'hôpital et tout. Et c'était loin. Il y avait plein d'éléments, en fait, autour de ce départ-là qui m'inquiétaient énormément. Et j'étais pas bien, j'avais pas réussi à dormir. Et ma mère a essayé de me rassurer le plus possible pour que je puisse aller dormir, en fait, et que je sois en forme pour la rentrée. Que je m'inquiète pas pour lui, du coup. Et c'est ce que j'ai fait, une fois que j'ai qu'on a réussi à me rassurer. Et donc, je suis allée me coucher. Et il faut savoir que j'ai appris son décès dans la nuit. Et subhanallah, le paradoxe que c'est quand une personne part, et je suis persuadée que c'est parce qu'il est parti sereinement, l'atmosphère qu'il y a autour, elle te rassure aussi. Elle te calme. Tu sais, c'est quelque chose de fort quand même, de douloureux. Mais dans le contexte là, j'ai ressenti quand même du calme et du soulagement. Parce que il était sous morphine. Hein. Il avait des douleurs atroces. Donc je savais déjà que, de un, ses douleurs s'étaient arrêtées. Qu'il ne souffrait plus, alhamdoulilah. Et de deux, que ce départ-là, qui était prévu et qui m'angoissait et qui m'inquiétait, il n'y avait plus à le faire. Donc c'était aussi quelque chose qui me rassurait. J'étais soulagée, en fait. J'étais soulagée pour lui et soulagée pour lui de manière globale, en fait. Et voilà. Et en plus, j'avais vu un détail, subhanallah, qui m'a apaisée. Malgré mon, je trouve, jeune âge à cette époque-là, j'avais vu que il avait le doigt en position de shahada. Pour les personnes qui sont non musulmanes et qui ne savent pas, ou qui sont musulmanes et qui ne savent pas, vous pouvez regarder sur internet la shahada avec le doigt, la position de la main. Et ça m'a encore plus rassurée. Et je me suis dit, alhamdoulilah, genre il est parti bien. Je me suis pas dit avec ces mots-là parce que j'étais une enfant, c'était un peu différent. Quoique, Allah, je me rappelle plus. Et après coup, plusieurs années après, ma mère me racontait en fait ces moments-là de son point de vue à elle. Parce que moi j'avais un point de vue et elle un autre, forcément. Et d'ailleurs, qu'Allah la récompense pour ce qu'elle a pu faire pour lui. Et elle me racontait que quand il entrait au bloc, qu'il devait se faire opérer, il lui demandait de tenir en fait comme un carnet de comptes de combien de prières il allait rater pour qu'il puisse les rattraper après. Et ça m'a impressionnée. Et j'en étais extrêmement admirative quand ma mère me l'a raconté. Et aussi quand il somnolait. C'était vers la fin, quand il somnolait, qu'il était mais vraiment shooté à la morphine, parce que ça endort en fait la morphine. Dès qu'il se réveillait, qu'il avait une reprise de conscience, la première chose qu'il faisait c'était Allahu Akbar. Et il se mettait en position de prière et il priait assis. Il avait perdu, subhanallah, sa conscience, il avait perdu tous ses repères, mais le seul repère qui restait c'était celui-là. Et ça, mais ça m'a donné une énorme leçon et un objectif à atteindre, un modèle à avoir. Et ça, je trouve ça mais incroyable, subhanallah. T'imagines, la dernière chose qui te reste, c'est Allah, c'est la prière. Même si dans ton état de conscience, tu ne peux pas, tu te dis pas, genre, là actuellement dans l'état dans lequel tu es, tu te dis pas que c'est la seule chose qui va te rester. Et moi, mon objectif dans la vie, c'est vraiment que ça devienne tellement ancré en moi que ça en devienne un réflexe. Et qu'Allah nous l'accorde à tous, et qu'Allah le récompense grandement pour ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je te raconte ça, c'est pour faire perdurer sa mémoire, enfin sa mémoire, son exemple. Et qu'il soit un exemple pour autrui, et je t'en parlerai plus en détail tout à l'heure, inchallah, pour que ça puisse être peut-être, bi'idhnillah, une source de récompense pour lui. Le fait qu'il soit non seulement un exemple pour moi, mais qu'il ait été un exemple pour plusieurs autres personnes, et qu'il en retire la récompense. Comme je te disais, c'est devenu vraiment un objectif de vie, un objectif que je me place en fait devant les yeux. Et subhanallah, il avait pu, alhamdoulilah, faire le hajj avant ça. Je crois que c'était avant qu'il ne tombe malade, enfin qu'on ne découvre qu'il était malade. Et il était vraiment devenu le modèle que je voudrais atteindre en fait. Sur ma vie entière et la fin de ma vie. Et j'ai appris aussi, plusieurs années après du coup, déjà ce que c'était le statut, enfin, ce que c'était un martyr. Je t'avoue que je prends pas la responsabilité de t'expliquer ce que c'est parce que j'ai peur de me tromper. Donc je préférerais que tu regardes cette information par toi-même. Et j'ai appris un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim qui dit que Abu Huraira a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les martyrs sont au nombre de 5. Celui qui succombe à la peste, celui qui meurt d'une maladie du ventre, celui qui meurt noyé, celui qui meurt sous les décombres, et celui qui meurt martyr dans la voie d'Allah. Et dans une autre version, lesquels d'entre vous considérez-vous comme martyr? Ils répondirent, ô messager d'Allah, celui qui tué dans la voie d'Allah est un martyr. Il leur a alors répondu, « S'il en était ainsi, les martyrs de ma communauté seraient bien peu nombreux. » Ils demandèrent donc, « Ô messager d'Allah, alors qui sont-ils ? » Il leur répondit, « Quiconque est tué dans la voie d'Allah est un martyr. Quiconque meurt dans la voie d'Allah est un martyr. Quiconque meurt de la peste est un martyr. Quiconque meurt des suites d'une maladie du ventre est un martyr. Et le noyé est aussi un martyr. » Je pense que tu vois où je veux en venir. Son cancer, donc du pancréas, le pancréas est situé dans le ventre, et donc c'est une maladie du ventre, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder son statut de martyr, et ça pour moi c'est la plus belle chose qui aurait pu lui arriver. Et rajoute à ça en plus le contexte dans lequel il est décédé, Allah rahmo, et ça aussi je l'ai appris plusieurs années après, il est mort pendant le mois de Ramadan. Je ne pouvais pas en fait, imaginez meilleure mort que celle-ci. Je ne pouvais pas lui souhaiter une meilleure mort que celle-ci. Je me dis, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé par la maladie et il a été très patient. À savoir que ma mère m'a dit que il était dans la chambre d'hôpital et les infirmières venaient le voir pour lui demander à quelle échelle était sa douleur. Tu sais, on demande souvent... aux malades, leur douleur de la côté de 0 à 10, et 10 étant la douleur la plus inimaginable qui soit, la plus insupportable, pardon. Et il les cotait souvent entre 7 et 8. Il ne se plaignait presque jamais de sa douleur. Il l'encaissait, il la supportait. Et subhanallah, la patience et le sabr dont il a fait preuve, pareil, ça aussi c'est un exemple pour moi. Je me dis... Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve par la maladie, par la douleur, qui est aussi une manière pour Allah subhanahu wa ta'ala d'effacer nos péchés. Et en plus, le sabr pour lequel je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une grande récompense, une récompense énorme. Et toute cette maladie-là, avec ces difficultés-là, je me dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu en fait le laver de tous ses péchés. Le laver vraiment de tous ses péchés. Lui enlever tout ça pour pouvoir le prendre neuf comme un nouveau-né. Et en plus de ça, par la permission d'Allah, lui accorder le statut de martyr, mort sur la shahada, avec pour presque dernier réflexe la prière, le pardon, demander pardon à ceux qui nous entourent et nos proches, le bon comportement, la douceur, et en fait tout ça réuni, et en plus pendant le mois de Ramadan, mais c'est le combo ultime, honnêtement. C'est pour ça que je me dis, je suis pas réellement triste, je suis pas vraiment peinée, voilà. Je suis triste, mais pas peinée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis triste en y repensant, évidemment, c'est humain et c'est normal. Mais j'ai tellement d'éléments, alhamdoulilah, pour compenser cette tristesse et pour me redonner encore plus de joie. En fait, vraiment compenser, mais surcompenser la tristesse par la joie. Je suis tellement plus joyeuse et heureuse pour lui, alhamdoulilah, que je ne suis triste de l'avoir perdu. Parce qu'au final, la tristesse, c'est par rapport à moi. C'est par rapport à mon sentiment de perte. Mais pour lui, je suis tellement heureuse. Mais tellement heureuse, alhamdoulilah. Et son visage, alhamdoulilah, il était tellement lumineux. Et en fait, je me donne... C'est même pas je me donne. Allah subhanahu wa ta'ala me donne tellement d'éléments pour compenser le fait que je l'ai perdu en étant jeune, que j'ai perdu un parent, que du coup je suis considérée comme orpheline, et il compense en fait toutes les choses que je ne pourrais pas ici-bas vivre avec lui par tous ces exemples-là. Et tu sais, c'est comme une caresse dans le dos, en mode bah, t'inquiète pas, c'est bien mieux pour lui. Ça donne vraiment une surcompensation et je me dis c'est pas grave, ça ne vaut pas en fait ça. Et de toute manière, la vie d'ici-bas, c'est pas la fin. C'est pas le tout. Ça n'est que le début. C'est la préparation de ce qui t'attend dans l'au-delà. De ce qui t'attend dans ta vraie vie, au final. Donc, qu'est-ce que c'est ? Vas-y, on va extrapoler. Une centaine d'années ici-bas contre l'éternité dans l'au-delà. Qu'est-ce que c'est ? Vas-y, on va vraiment encore extrapoler. Qu'est-ce que c'est 90 ans sans lui contre, bi'idnillah, et je demande à Allah de me l'accorder, une éternité à ses côtés. C'est vraiment pas comparable. Donc je me dis, tout ce que, entre guillemets, je n'ai pas ici-bas, je vais tout faire pour chercher à l'avoir dans l'au-delà. Et c'est sur ce point-là qu'on va du coup passer au point suivant, parce que le premier point était pas mal long. C'est du coup celui où je te racontais un peu mon histoire et où je te partageais mon point de vue sur la mort, qui a été du coup grandement impactée par mon point de vue sur la mort de mon père. Bon. En fait, je prends ça comme calque, comme référence, et j'applique ça à toutes ces situations-là qui pourraient être similaires. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un passage qui est obligé. Donc on ne peut pas vivre en fait dans une existence ici-bas à ne pas se rappeler de la mort. Parce que c'est une fatalité. C'est quelque chose qui va arriver. Et on le sait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc pourquoi nier quelque chose qui arrivera et qui sera le switch sur ta vie, qui déterminera le point de départ? Parce que c'est pas un point d'arrivée au final, la mort. C'est un point de départ vers ce qui t'attend après et qui est le vrai après. Qui est la vraie vie qui t'attend. Pourquoi on négligerait et on serait dans le déni du fait que ça existe, que ça peut arriver à tout moment, et on vit notre vie ici-bas comme si vraiment c'était la seule qu'on allait vivre. Et on en profite, mais mal. Et c'est un passage obligatoire qu'on vivra de différentes manières. Donc, que ce soit nous, notre mort, ou celle de proches à nous, on l'expérimentera forcément d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, autant s'y préparer. T'es pas d'accord ? Je pense que t'es totalement d'accord. Et donc, quand tu te fais cette réflexion-là de toute manière, ça doit arriver, donc, bah, autant m'y préparer. Et s'y préparer, mais comment ? De plusieurs manières. Déjà, psychologiquement, l'accepter au lieu d'être dans le déni. Accepter le fait que ça peut arriver à tout moment. Que ça n'est pas la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Accepter le fait que c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Parce que la mort, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça peut être mauvais dans la situation où, par exemple, t'es dans une mauvaise posture par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à ta vie d'ici-bas et donc de l'au-delà, parce que je pense que tu le sais, mais je te le rappelle, la vie d'ici-bas, ça n'est qu'une étape de préparation pour l'au-delà. Donc si tu prépares mal, c'est comme une préparation d'un contrôle. Si tu prépares mal un contrôle, que tu révises pas du tout, que tu sais pas du tout ce qui va se passer, que tu connais pas ta leçon, tu pourras jamais venir et donner des réponses comme ça, au hasard, et être sûr de réussir. Tu peux avoir de la chance sur une ou deux choses. Mais, enfin bref, tu m'as comprise. Et donc, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pas quelque chose de triste en soi, et je pense que je te l'ai à peu près prouvé par rapport à mon expérience, l'expérience que j'en ai eue, c'est pas quelque chose de triste en soi, parce que je suis heureuse et contente de comment ça s'est passé. Et je suis contente pour lui que ça se soit passé à ce moment-là, de cette manière-là, etc. Donc, s'y préparer déjà mentalement, comme je te l'ai dit, et s'y préparer aussi par nos actions, par le fait de se renseigner sur ce que c'est, comment ça se passe, qu'est-ce qui nous attend, etc., etc. C'est pas en fait en... Et je pense que l'humain fait ça instinctivement, mais c'est pas en fermant les yeux sur quelque chose que cette chose disparaît. C'est pas en fermant les yeux sur quelque chose que ça n'existe plus, que ça ne va pas arriver. Et c'est le meilleur moyen en fait de se prendre une baffe dans la tronche énorme. C'est le meilleur moyen d'être choqué, de se dire « je m'y attendais pas du tout ». Alors qu'en réalité, on devrait s'y attendre à tout moment. Et c'est d'ailleurs le meilleur moyen, oula, pardon. Et c'est d'ailleurs, en tout cas pour moi, un des meilleurs rappels. Pour moi, c'est le meilleur rappel. C'est celui qui a le plus d'effet sur moi. Et c'est celui qui te fait le plus changer de comportement presque du jour au lendemain ou d'une minute à l'autre. C'est comme le fait de s'habiller correctement. Moi, le rappel qui m'a fait porter le voile en, disons, assez peu de temps entre le moment où j'ai décidé que je voulais le porter et le moment où je l'ai fait, c'est la mort. C'est parce que je me disais, qu'est-ce qui te garantit que demain, tu seras encore là? T'es jeune, t'as le temps. Qu'est-ce que t'en sais que tu vas vivre longtemps et que du coup, tu as le temps? Qu'est-ce que t'en sais que ta vie, elle va pas s'arrêter là, dans deux secondes? Allahu a'lam. Allah le sait. C'est un point défini. C'est une date définie. Mais c'est juste que toi, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas quand. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et donc, s'y préparer par ses actions, que ce soit des actions positives, des choses bien à entretenir, à mettre en place, etc. Ou des choses mauvaises, desquelles s'éloigner. C'est comme quand tu... Comme on dit, si tu ne veux pas mourir à cet endroit, n'y va pas. Si tu ne veux pas mourir dans cette situation-là, ne te mets pas dans cette situation-là. Si tu ne veux pas mourir dans cet état-là, ne te mets pas dans cet état-là. Et donc, cet événement qui est la mort, ce qu'on peut faire de mieux, pour nous et pour tout le monde en fait, c'est vraiment de l'accepter au lieu de l'ignorer. Parce que quand tu l'ignores, tu te dis ça n'existe pas, enfin du moins ça n'est pas dans ta pensée. Faut pas non plus que ça soit quelque chose qui t'obsède en fait. Parce que tu vas penser qu'à ça et ça va devenir contre-productif. Ça va devenir délétère même. Mais il faut que ça soit dans la pensée régulièrement. Et c'est pour ça que je cherche à te faire avoir en fait un point de vue, une perspective positive par rapport à ça. Bénéfique, quelque chose qui va être, qui va apporter du plus en fait, du positif, qui va être amélioratif. Parce que la mort en fait c'est pas la fin de quelque chose, c'est pas non plus l'inverse de la vie. C'est une étape qui fait partie de la vie, qu'on peut rencontrer une ou plusieurs fois, de différentes manières. Ben, en fait, c'est là et c'est tu peux pas y échapper, donc vraiment autant l'accepter, quoi. Et donc, comme c'est quelque chose qui fait partie de la vie, je pense que vraiment c'est mauvais et complètement contre-productif de rendre ce sujet, tu vois, tabou. Comme si c'était quelque chose dont on ne doit pas parler, quelque chose... Oh non, surtout pas, surtout pas. Alors que ça arrivera. Et on ne va pas y échapper. En fait, le moment où ça doit arriver est déjà écrit. En réalité, on vit dans un compte à rebours. On ne sait pas à quel point il est long ou court. Ça ne doit pas nous stresser au point où on ne vit plus, au contraire. Mais on doit en prendre conscience. Et par exemple, le fait de rendre ce sujet tabou pour notamment les enfants, parce qu'on a tendance à opposer les deux, à se dire qu'un enfant n'a rien à voir avec la mort. L'enfant, c'est la vie qui se développe ou la vie potentielle ou enfin bref, c'est quelqu'un qui doit grandir, qui... Un enfant, c'est genre un potentiel de vie. Et de le confronter à la mort d'une manière ou d'une autre, bah, c'est un non-sens. Alors que pas du tout, au contraire. Déjà, il y a des enfants qui meurent. C'est une réalité. Dans des circonstances plus ou moins violentes, et on le voit avec le contexte actuel. Et d'ailleurs, qu'Allah leur vienne en aide et les assiste, et leur offre liberté, justice et paix. Et aussi, tu l'as vu avec mon exemple, la mort, c'est quelque chose à laquelle on peut être confronté, pas forcément pour soi, mais à travers autrui, pendant l'enfance. Et un enfant qui ne sait pas ce que c'est la mort, qui ne s'y est pas préparé, qui n'en a jamais entendu parler parce qu'on a rendu le sujet tabou pour lui, bah ça va d'autant plus l'impacter, le choquer, et l'attrister, ou le avoir un... Ouais, l'impacter, en fait, négativement, plutôt que quand on y est plus ou moins préparé, quand on en a déjà entendu parler, du moins, qu'on nous a introduit la chose. Et je pense que c'est essentiel et nécessaire d'en parler, et même aux enfants. Genre, je vois pas pourquoi il y aurait une personne ou une catégorie de personnes qu'on priverait de ce sujet-là. Parce que c'est une ni'ma. Quand tu sais ce que c'est, tu t'y prépares beaucoup mieux. Quand tu sais ce qui se passe autour, tu sais comment agir, tu sais ce qu'il faut faire. C'est comme quand on t'explique, imaginons, une activité que tu dois faire, du parapente ou je sais pas quoi. Si on te dit non, t'inquiète, bah tu vas y aller, mais tu sauras pas quoi faire. Tu peux faire les bonnes choses, tu peux avoir les bons réflexes, mais tu peux aussi ne pas les avoir. Alors que quand on t'explique, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il faut pas faire, et bah là c'est beaucoup plus clair. Tu y vas avec un esprit éclairé. Et on se doit aussi de l'accepter. Accepter la mort d'autrui, déjà parce que c'est un décret d'Allah. On se doit d'accepter le décret d'Allah. Et on se doit d'accepter sa propre mort. Bon, on ne l'accepte pas après, on l'accepte avant du coup. Mais la phrase qu'on dit après la mort de quelqu'un, qui est un excellent rappel, qui est « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », qui veut dire « Nous appartenons à Allah, nous sommes à Allah ». Et c'est à lui que nous retournons, c'est vrai. C'est quand tu es confronté à la mort et que tu dis cette phrase, normalement on devrait prendre le temps de la prendre en réflexion pendant ne serait-ce que 5 minutes et se dire c'est vrai. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. On n'est ici que comme un prêt. on est ici de manière ponctuelle. C'est pas indéfini, c'est totalement défini. Et de toute manière, on retournera à lui. Et ça me fait penser d'ailleurs à une histoire que je voulais te raconter d'une femme. Faudrait que j'essaye de la... Enfin, faudrait que je réussisse à la retrouver parce que j'ai essayé de chercher, mais je sais pas trop quel mot-clé utiliser en fait pour retrouver l'histoire. Et je ne sais pas en réalité de quoi elle est tirée ou de... J'ai pas la source, du coup, je le prends comme une leçon, une hikma, quelque chose de bon à prendre. C'est du coup l'histoire d'une femme qui avait, je ne sais plus si c'était un ou deux enfants, je crois que c'était un enfant. Il devait avoir dans les... De mémoire, quand j'ai entendu l'histoire, il devait avoir dans les 7 ans, un truc comme ça. Et à un moment donné, en fait, je crois que l'enfant était malade et à un moment donné, sa mère le retrouve du coup dans son lit décédé. Et le mari était sorti du coup au travail, en fait il était en journée de travail. Et la femme a du coup plus ou moins préparé l'enfant. Elle est sortie. Elle s'est faite belle, elle s'est mise en beauté du coup, elle a préparé la maison, à manger, et quand son mari est rentré, elle l'a accueilli, les bras grands ouverts, elle a passé un bon moment avec lui, ils ont même eu un rapport, et au moment où, enfin après tout ça du coup, après qu'elle l'ait préparée de la plus belle des manières qui soit, qu'elle l'ait mis entre guillemets dans un bon mood, je sais pas si l'expression est bienvenue ici, mais bon. Ensuite elle lui a dit, est-ce que si un de tes voisins te prêtait quelque chose et qu'il était venu le temps de la récupérer, tu serais en colère contre lui et tu voudrais, enfin t'aurais du mal à lui rendre. Et subhanallah, c'était deux personnes très, très pieuses et très croyantes. Et il lui a dit, non, pas du tout, ça lui appartient, donc c'est pas de mon droit d'être en colère pour ça ou de ne pas vouloir lui rendre. Elle lui a dit, eh bien, Allah a repris son dû. Et donc c'est comme ça qu'elle lui a annoncé que leur fils était décédé. Et je trouve que c'est une belle histoire dont on peut tirer une belle leçon, qui est que effectivement on peut pas en fait se révolter contre ça parce que la personne ne nous appartient pas, on n'a aucun droit dessus, elle appartient à Allah et c'est un prêt et Allah va reprendre son dû et on retournera tous à lui parce qu'on est tous un prêt de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je trouvais que c'était une belle histoire pour illustrer en fait joliment le fait de qu'Allah reprenne son dû. Déjà, j'espère qu'à ce stade-là, ta vision des choses sur à propos de la mort aura changé un petit peu. Et en fait, ce switch de perspective va te permettre aussi d'acquérir des outils pour développer ton sabre, pour développer ta patience. Parce que quand tu as une vision positive, globale, d'une chose, bah, t'arrives plus facilement en fait, à utiliser ces outils pour un peu éponger le côté négatif, douloureux, triste, etc., des choses qui sont une réalité et qu'on doit accepter, par lesquelles on doit passer aussi, parce que c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait ressentir ce genre d'émotion quand on est confronté à la mort, notamment la tristesse, le fait de pleurer. Je te dis pas du tout de ne pas pleurer, d'accepter, de passer à autre chose, hein. les étapes du deuil sont des étapes de guérison et elles sont nécessaires. Mais quand tout ça est englobé par l'acceptation de la chose, par une bulle positive, bah, ça fait que tu peux développer ces émotions-là et les exprimer dans un environnement sain. Et tu peux aussi te réconforter, en fait, d'une manière beaucoup plus simple. Et c'est aussi pour ça que je tiens, en fait, à te donner les moyens de développer ces outils-là. Par exemple, pour les dates, entre guillemets, d'anniversaire de mort. Donc quand il se passe un an après la mort d'un tel, jour pour jour, 2 ans, etc. C'est des dates butoirs qui sont difficiles, qui ravivent le souvenir, qui te replongent dans la douleur, dans le manque, dans tout ça. Et en fait, je voulais te donner par exemple un outil dans cette situation-là. Tu pourrais te dire, ça fait un an de plus que je passe sans cette personne. Ça fait un an de plus que je passe loin de cette personne. Et en fait, certes, c'est une vision des choses, mais moi je vais t'en proposer une autre qui sera beaucoup plus positive et qui est tout aussi réelle que celle-là. En fait, tu décides juste de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Moi, je me dis, comme je t'ai raconté mon histoire, du coup, enfin une partie de mon histoire, moi, je me dis, c'est pas une année de plus passée sans mon père Larhamo, par exemple. C'est surtout une année de moins à attendre pour qu'on soit réunis. Et quand tu le vois sous cet angle-là, tu vois le truc ? Ça change carrément la perspective et tu vois les choses autrement. Tu les vois sous un nouvel angle. Tu te permets en fait de prendre du recul et de changer de point de vue et te dire ah ben finalement c'est quelque chose de bien. Certes, c'est un an passé dans la perte, dans le deuil, dans la tristesse, etc., etc. Mais c'est aussi, et tu peux choisir de le voir plus comme ça que comme l'autre point de vue du coup, c'est aussi et surtout un an de moins à attendre avant qu'on soit réunis. Ça nous rapproche de cette date-là où on pourra enfin être ensemble pour l'éternité. Et qu'Allah nous l'accorde. Amin. Et quand je dis nous l'accorde, je parle pas seulement de ma situation, je parle de nous, toi, moi, tes proches, mes proches, etc. Et quand tu te dis ça, ça opère aussi un changement et une réflexion, ça motive une réflexion de te dire, ok, si je veux que ce moment-là arrive, si je veux que ça se concrétise, qu'on puisse se réunir dans le paradis pour l'éternité, ensemble, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je me donne, moi, le plus de chances possible, le plus d'outils possible pour pouvoir y arriver. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais opérer des changements. Je vais opérer des changements en améliorant mon comportement, en améliorant mes points de vue, en cherchant à délaisser ce qui est mauvais et à multiplier ce qui est bon. Et pareil pour la personne décédée, tu vas chercher à améliorer des choses, à lui apporter des outils, comme ce que je suis en train d'essayer de faire, et qu'Allah lui en accorde la récompense, lui donner des outils pour que lui aussi tu te dises, on sait jamais, on n'a rien entre nos mains, on n'est jamais sûr de rien, j'ai beau avoir plein d'éléments qui me rassurent, mais je peux pas dire avec certitude, mon père se retrouvera au paradis. Je ne peux que prier Allah pour que il l'accueille dans son vaste paradis et qu'il l'accueille au plus haut degré de son firdaus. Amin. Et pour vos morts aussi. Allahumma amin. Et du coup, je vais lui donner aussi, je vais chercher à améliorer son statut, à le monter en degré et en niveau. Et moi, à me monter en degré et en niveau. Et du coup, ça te donne un moteur, ça te donne un objectif à atteindre et tu te le mets devant les yeux et tu te dis, voilà mon objectif, donc qu'est-ce que je dois utiliser comme outil, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif et me donner le plus de chances pour l'atteindre et pour être, enfin pour monter, on va dire, en certitude, même si on n'a pas de certitude du tout, que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais monter un peu plus mon niveau de certitude, plus du côté positif que négatif, tu vois. Et donc ça, ça me donne le point de levier pour le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est-à-dire comment préparer sa mort. Parce qu'au final, quand tu prépares ça, tu prépares ton au-delà, tu prépares ton objectif, donc tu prépares ta mort pour qu'elle soit dans des conditions où tu as pu préparer ta akhira avant ça. Tu vois, au final, tu prépares pas vraiment l'événement de ta mort, la seconde de ta mort. Tu prépares l'étape qui est après. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la mort, c'est une étape de la vie. Parce que la vie ne s'arrête pas à notre mort. La vie, elle commence en réalité, la vraie vie, la vie éternelle, commence à ce moment-là. Donc tu prépares en fait cette étape-là. Et comment tu peux la préparer? Je me suis dit que j'allais te donner, enfin, pas te donner, mais partager avec toi des éléments auxquels moi je pense, et j'ai pensé. Je me suis dit, bah pourquoi pas, peut-être que ça pourrait servir. Notamment par exemple le testament. Quand tu parles de testament, souvent comme justement l'image de la mort, c'est quelque chose de glauque, de noir, de sombre, mauvais, négatif, etc. Quand t'entends testament, tu te dis, ah, c'est barbant. Non, ça plombe l'ambiance. Alors que ça pourrait être quelque chose de positif. Parce que dans ton testament, tu notes quoi? Tu notes par exemple les dettes que tu as, que tu voudrais éponger. Tu notes des demandes, imaginons par rapport à un héritage, tant que c'est conforme évidemment à ce qu'on peut faire dans la religion, du point de vue religieux. Tu notes aussi où tu voudrais par exemple être enterré, de quelle manière. Par exemple, moi j'ai pas envie du tout que ma tombe ressemble à quelque chose de grand, de majestueux, de lourd, de sachant que dessous, c'est de la terre et du coup, ce qui reste d'un corps. Et ce serait un peu se mentir à soi-même que, enfin, en grandissant le truc comme si ça donnait du prestige à la personne, alors que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est au plus simple, au mieux. Et d'ailleurs, le mieux et le plus simple, c'est aussi de ne pas mettre de signes trop distinctifs sur une tombe, parce que c'est ce qui peut amener à ce que des gens prennent la tombe pour repère et commencent à prier sur cette tombe parce que, en fait, cette personne était de base admirée pour sa piété, et au final elle est presque déifiée, c'est mauvais. En fait, si t'as une rangée de plein de tombes qui se ressemblent, bah tu peux pas faire la différence entre toutes. Tu mets un petit signe distinctif, histoire que la première, deuxième, ou première et deuxième génération après toi puisse la reconnaître et puisse venir prier sur toi et se recueillir. Mais normalement, faut éviter d'avoir des signes plus distinctif que ça. Et moi, par exemple, c'est vraiment ce que je voudrais, Inch'Allah. Mais je t'avoue que sur le sujet de la tombe, je me suis pas renseignée en profondeur, donc pareil, je te laisse aller regarder un peu plus d'informations là-dessus. Là, je viens de regarder des infos, mais je suis pas assez calée pour pouvoir prendre la parole dessus et dire il faut faire ça, il faut pas faire ça, etc. Et j'ai pas du tout le niveau pour. Donc Je vais éviter. S'acquitter de ses dettes. Avant. Du coup, avant la mort, même si on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive, mais du coup, s'acquitter de ses dettes le plus rapidement possible, dès que tu en as la capacité. Et sinon, du coup, le noter sur ton testament. Sur ton testament, il peut y avoir quoi aussi? Je sais plus exactement. Bon, pareil, tu regarderas. Avant sa mort, et du coup, régulièrement, il faudrait essayer de rechercher le pardon de personnes qu'on ait pu blesser ou envers lesquelles on aurait pu être injuste, etc. Chercher à éviter pareil les injustices. Chercher la science religieuse notamment, qui est la plus importante. Et chercher à acquérir la science pour savoir en fait ce qu'on fait, tout simplement. Comment on le fait, comment on doit le faire. Est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon, est-ce que c'est autorisé, est-ce que ce que je fais depuis des années, en réalité j'ai le droit de le faire? Est-ce que ce que je fais depuis des années, en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas bon à faire, ou peu importe, tu vois, en réalité, plus tu apprends la science et plus tu te rends compte à quel point tu es ignorant et tu faisais les choses de manière bête. Avec une ignorance, mais incroyable, et bah, pourtant, t'étais là, t'étais bien sûr de toi, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Histoire en fait de vivre une vie du coup qui satisfera Allah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir sur une satisfaction complète de nous, sur l'islam et le tawhid. Et vraiment qu'il ne nous fasse mourir que quand il est pleinement satisfait de nous. Amin. On peut aussi la préparer en évitant de propager quelque chose de mauvais ou de ouais, quelque chose de mauvais globalement. Comme par exemple quand on commet un péché en public. C'est aussi pour ça que commettre un même péché en public, c'est plus grave que quand on le commet en privé. Parce que il y a entre autres ce mécanisme-là de le propager parce que les autres te voient faire, donc peut-être qu'ils pourraient se dire bah, si un tel ou une telle fait ça, c'est que c'est pas si grave que ça. Donc je peux le faire, ou donc je vais le faire. Et inciter à commettre ce genre d'action, ce genre de péché, ça va peser sur ta balance, ça va peser en fait dans tes actions, dans tes mauvaises actions. En fait, ça va peser sur toi, même après ta mort. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'après ta mort, t'aies un maximum de hasanat, t'aies un maximum de bonnes actions, et que même elles se multiplient après ta mort. À savoir que, dans un hadith rapporté par Muslim et Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf pour trois choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, et un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui. Donc, on va essayer de se pencher sur ces trois points-là et de se dire, ok, mon objectif, c'est vraiment bah, que je mette ça en place pour me donner en fait un argument en plus, quelque chose en plus, une sécurité en plus, pour se dire que tu peux au moins essayer de t'appuyer sur ça, et ça donne vraiment une sécurité en plus où tu te dis, même si il se passe, imaginons tu meurs dans un état qui est pas fou, bah tu te seras donné cette sécurité-là, ou même si tu meurs dans un état qui te paraît toi très très bien, t'es jamais sûr de ce qui peut se passer. Et ça ne sera jamais de trop, ces actions-là. Donc, mettre en place une aumône continue, ça peut être une aumône faite, par exemple, pour la construction d'une mosquée, à savoir que chaque personne qui priera là-bas, tu emprunteras une part de récompense, un puits, et c'est la chose qui est le plus faite de nos jours, il me semble. Ou de tous les temps, j'en sais rien. Allahu a'lam. En plus, le fait d'apporter, de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice dans le fait d'apporter de l'eau à quelqu'un, c'est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça perdure après ta mort. Une science bénéfique, quelque chose dont tu acquiers la science, donc il faut l'acquérir avant de pouvoir la propager. Et ça, c'est pas chose facile en réalité. Et tu propages quelque chose de bien, une science bénéfique. Et qu'Allah nous accorde le fait de pouvoir propager des sciences bénéfiques. Et que ce qu'on fasse dans notre vie de tous les jours soit bénéfique pour autrui et pour soi. Et un enfant vertueux qui invoque Allah pour cette personne, bah, ça passe par l'éducation des enfants, son éducation à soi. On doit se réformer d'abord soi pour pouvoir le transmettre ensuite à la génération suivante. Et c'est un des points, moi, qui me fait toujours pareil, qui me donne un argument en plus, où je me dis, bah, je dois donner un maximum de chance à mes parents et invoquer pour eux et devenir une meilleure personne pour moi, mais aussi pour eux. En fait, tu prépares pas que ta mort dans ce genre de réflexion et tu prépares l'au-delà de tes parents, tu prépares l'au-delà de pas mal de personnes en fait. On s'entraide tous là-dedans. Parce qu'au final, dans ces trois éléments, l'aumône continue, la science bénéfique et l'enfant pieux qui invoque pour toi, bah, ça implique forcément une autre personne. Donc ça nous pousse à nous entraider et à faire le bien entre nous, pour les autres, pour soi et pour les autres. Et donc dans ce cadre de réflexion, si tu vas chercher pour toi et pour par exemple un défunt à lui donner le maximum de chance en multipliant ce type d'action pour cette personne-là, bah faut aussi, comme pour toi, tu vas éviter des péchés, éviter de propager par exemple quelque chose de mauvais, ne serait-ce qu'une chose mauvaise que cette personne-là t'a apprise, bah, éviter de la propager parce que non seulement pour chaque fois où toi tu le fais, bah, la personne prend sa part de péché, mais en plus si tu le propages, chaque personne qui le fera, enfin, ça fait une chaîne interminable. Et bah, en fait, c'est bien de se dire ça, d'avoir ça en tête pour pouvoir te dire, ok, je vais mettre fin à cette chaîne, je vais, c'est quoi déjà? Briser le cercle, briser la roue, ou je sais plus comment on dit. Mais tu brises ce cercle vicieux et tu mets en place des cercles vertueux. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour le moment, pour ce sujet-là. J'espère qu'il t'aura été bénéfique. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te récompenser pour cette écoute, de te protéger, de protéger les tiens. Et de t'accorder son pardon et son aide pour te réformer. Et je m'applique cette doa à moi aussi. Allahumma amin. Et prends soin de toi. Et qu'Allah prenne soin de toi. Amin. Et assalamu alaikum wa rahmatullah.